Les podcasts du Collège de France, Histoire.
Bonjour mesdames, messieurs, merci d'être là pour la dernière leçon de cette année civile. Alors, je vais commencer très brièvement par résumer nos conclusions en ce qui concerne Saoucha, parce que je crois que nous avons terminé de manière un peu abrupte la dernière fois. Alors, en appliquant notre grille de lecture, y a-t-il un renvoi en écho dans ce texte de Saoucha ? Sans aucun doute, hein, puisque la strophe 56.1 est identique à la strophe 15.1 et présente des affinités particulières avec la strophe du Yasna 27.6 qui introduit directement au début de la récitation de l'Avesta ancien. Alors, anticipation aussi, certainement, puisqu'on voit progresser le thème de la protection qui s'est constitué, dont les éléments se sont constitués immédiatement au Yasna 55. Et cette fois-ci, ce thème de la protection prend une coloration très nettement démonologique. Alors, que se passe-t-il ? Pourquoi Saoucha ici ? Pourquoi Saoucha au Yasna 56 et 57 ? Pourquoi à ce moment du Yasna ? Bien, nous le savons depuis maintenant un certain temps, c'est le moment du Vertrakna. Et le moment du Vertrakna, bien, c'est aussi le moment du dieu Vertrajan. Donc, il y a une correspondance, certainement, entre le résultat de l'opération rituelle à ce moment-ci et la qualification la plus spécifique de la divinité. Ce que nous gardons en réserve pour les leçons qui vont venir, il n'en sera pas encore question aujourd'hui, c'est que, en tant que dieu du secteur gathique, Yasna 33, Yasna 34, comme nous l'avons déterminé grâce au Yasna 27.6, Saoucha est d'une manière ou d'une autre associé à la notion de Kshatra. Nous serons bientôt en mesure de dégager ce que cette notion de Kshatra, présente de pouvoir, de capacité, présente comme particularité au moment liturgique où nous nous trouvons. Alors, nous allons aujourd'hui, ceci étant acquis, nous préoccuper de la déesse Ashi, dont elle est associée à Saoucha, mais elle présente avec le dieu Saoucha un certain nombre de particularités. C'est une divinité qui a un texte qui lui est consacré spécifiquement dans le Yasna, comme Saoucha. C'est un texte court, mais il a néanmoins son importance. Ce n'est pas un texte de l'importance des 34 strophes du Yasna 57, mais il a son poids, de toute manière. Alors, Ashi aussi, tout comme Saoucha, a son yasht parmi les autres yasht, en plus. Un texte beaucoup plus long, 64 strophes, dont la valeur informative est réelle, mais aussi relativement faible par rapport à la dimension du texte. C'est un yasht composite, selon nos critères. Ce n'est pas du début à la fin un véritable yasht. On peut y distinguer, si vous voulez, quatre parties, en mettant à part les introductions et les conclusions. Première partie, de la strophe 6 à la strophe 14, nous trouvons devant un genre rhétorique que nous connaissons déjà, dont nous avons suspecté l'existence depuis une dizaine d'années maintenant. C'est un catalogue. Et en l'occurrence, c'est le catalogue des bienfaits que la déesse Ashi est susceptible d'apporter à ses fidèles dans la sphère du bonheur domestique. Nous allons y revenir, car ici, ça a son importance. De la strophe 14 à 23, c'est le récit de sa rencontre avec Zarathoustra. Une histoire, si vous voulez, un mythe. Rencontre de la déesse avec Zarathoustra, et je vais y revenir aussi parce qu'ici, cela a son importance également. Puis, cela cesse d'avoir une importance considérable pour nous. Il n'y a plus que des éléments épars, des détails qui peuvent nous informer. De la strophe 24 à 52, c'est le catalogue des sacrifiants. C'est la seule partie véritablement yasht de ce texte. Le catalogue des sacrifiants, il y en a quatre dans les yasht, je vous le rappelle. Dans le yasht 5, Anahita. Dans le yasht 9, à Druvaspar, la déesse aux chevaux immobiles. Dans le yasht 15, à Vayu. Et celui-ci. Or, celui-ci présente la particularité d'être strictement identique, un détail près que je mentionnerai, strictement identique à celui du yasht 9. Donc, vous voyez, la valeur informative nous abandonne, car les demandes des sacrifiants sont les mêmes partout, dans tous les catalogues, et nous n'apprenons rien de plus sur le caractère de la déesse, sauf ce petit détail que nous devrons épingler. Strophe 53 à 61. Il se présente comme une conversation, cette partie se présente comme une conversation entre la déesse et Ahura Mazda. Il y a plusieurs prescriptions rituelles, des exigences de la déesse par rapport à son culte, de petites anecdotes aussi qui nous rappellent ceci, et je m'y arrête un petit moment, c'est-à-dire qu'à côté de cette grande mythologie globale que nous avons dégagée dans le cas des Fravashi et dans le cas de Srausha, et qui est régi par le schéma de la doctrine des âges du monde, où le mythe global, c'est l'histoire du monde elle-même, à travers ces âges, eh bien, il y a aussi, je dirais, une mythologie secondaire, une petite mythologie secondaire, de petites histoires que l'on raconte par-ci, par-là, sur ce qu'aurait fait la déesse à tel moment. Nous en avons vu un exemple dans le yasht des Fravashi, il y en a plusieurs dans le yasht Anahita. C'est toute une littérature perdue aussi, celle d'historiettes, de contes au sujet de la déesse. Ça ne manque pas à la littérature avestique, hein, ça ne manque pas, ça existait. Hein, Madame Jamieson pense que c'est une des grosses différences avec le védique, que l'absence de cette mythologie secondaire, mais non, simplement nous ne l'avons pas. Nous ne l'avons pas. Mais quelques exemples ont survécu. Enfin, la déesse se plaint de certains comportements humain qui pourrait l'amener, comme elle dit, à retourner au ciel ou bien à ramper sur la terre. Ce n'est pas ce qu'elle doit faire. Faut-il qu'elle se love contre le sol ou qu'elle parte au ciel ? Et Ahura Mazda lui répond en lui offrant lui-même un sacrifice. Bien, alors je reviens aux deux parties les plus lourdes de sens pour notre propos. La déesse du bonheur domestique. Deux motifs sont extrêmement présent, prégnant dans cette partie. C'est le verbe « hatch », accompagner. Le verbe « hatch », accompagner. Par excellence, la déesse Hachi est la déesse qui accompagne. C'est un verbe obsédant dans son activité que celle de « accompagner »,« hatch ». D'ailleurs, tout ce catalogue des bienfaits est ponctué par le refrain « yoi hachahi ». Hachish, ce qui veut dire voilà ce qui arrive, tous ces bienfaits, à ceux que tu accompagnes. Et puis le refrain reprend Ushtaba yim hachahi, bonheur pour ceux que tu accompagnes. Utamam upahanchahi, et tu m'accompagnes. Tu m'accompagnes dans la réalité. Avec une expression, une définition de la déesse qui est Vurusarda. Vurusarda. J'ai nourri le soupçon que nous avons ici le nom de l'année, l'adjectif qui signifie large, donc que la déesse est qualifiée de ayant une large année, ce qui voudrait dire, n'est-ce pas, si nous ne nous tenons pas à la traduction la plus strictement littérale, tu m'accompagnes sur toute la longueur de l'année, la largeur étant substituée à la largeur de l'année, ce qui mettrait d'ailleurs en lumière, une fois aussi, cette idée que la déesse, lorsqu'elle s'installe dans la maison de quelqu'un, c'est pour longtemps, elle y reste. C'est une longue association, comme dit le texte, la longue association que l'on peut avoir avec la déesse du bonheur. Alors, l'autre motif persistant, obsédant dans en ce qui concerne la déesse, C'est le motif de la maison, une mana. Je dis, n'ayez pas évidemment d'image trop précise de ce qu'est une maison à l'époque qui nous concerne ici. Hein. Mais c'est l'endroit où demeure une famille linéaire, la maison. Alors, ici, il faudrait peut-être essayer de dégager peut-être les implications de cette présence de la maison. On peut voir les choses d'une manière assez simple, vous vous en doutez bien, n'est-ce pas ? Déesse du bonheur domestique, tout ce qu'on évoque dans ce passage, n'est-ce pas, c'est la chance, le bonheur, n'est-ce pas, dont l'homme peut jouir dans sa famille. Hein ? Il a une progéniture, ses enfants ont des qualités, ses femmes sont belles, la nourriture est abondante, la maison est confortable. Bon, ouais, c'est de ce niveau-là, c'est cela que l'on nous raconte, bien sûr. Bonheur domestique, oui. Mais il y a tout de même d'autres petits détails qui laissent penser que les choses ne sont pas si simples. Achi est associé à Saosha, vous le savez, n'est-ce pas ? Saosha est dit Achia, c'est-à-dire il accompagne Achi ou bien Achi l'accompagne. Attention, ce n'est pas le verbe ici, façon de construire l'adjectif. Mais on pourrait, n'est-ce pas, nous verrons d'ailleurs que l'on pourrait transposer l'expression en utilisant le verbe hach. Bien, or, Achi et Saosha, un couple. Saosha est masculin. Achi est une déesse féminine. L'information nous vient d'ailleurs. Elle vient du Yasna 10.1. C'est dans le Homestome. Et vous savez que ce deuxième chapitre du Homestome est consacré aux opérations du pressurage qui vont être évoquées dans l'ordre, comme nous l'avons vu il y a quelques années. Or, dans ce Yasna 10.1, il est question d'une maison. Et l'on souhaite, on fait le souhait, on fait la demande à Saosha de l'habiter. Il faut que Saosha habite ici. Il faut aussi que, on souhaite aussi, que Achi habite aussi ici, avec lui. Cette maison, vous savez, c'est peut-être, par métaphore, la maison d'une famille, d'un couple. Le maître de maison, Saosha, et la maîtresse de maison, Achi. Oui, mais c'est aussi le lieu du pressurage de Hauma. C'est dans cette maison que l'on conduit Hauma pour être pressuré. Donc, c'est l'aménagement d'un espace rituel. Aménagement d'un espace rituel, en l'occurrence le pressurage du Hauma, et d'autre part, maison du couple divin Saosha-Achi. Rappelons-nous la leçon dernière. Le Yasna 57, le Srochiacht, le Yacht pour Saosha, fait le récit de trois sacrifices. Or, à trois reprises, pour chacun d'entre eux, le sacrifice est présenté comme équivalent à la construction d'une maison. Lorsque Saosha offre le sacrifice au dieu, le premier du monde matériel, nous dit le texte, il construit une maison pour les hommes, pour la protection des hommes. Lorsque les Masdéens sacrifient à Saosha, on leur fait valoir, bien, tiens, ce que l'on raconte dans le Yasht à Achi, c'est-à-dire que celui qui sacrifie à Saosha, dans sa maison, les calamités sont exclues. Et le troisième sacrifice, le sacrifice d'investiture du pouvoir de Saosha, avec le Zaotar Hauma, eh bien, c'est construire une maison pour Saosha. Et une maison à ce point de contact entre le ciel et la terre, qui est la montagne de l'aurore, la montagne Hara. Dès lors, nous voyons que les choses ne sont pas si simples, qu'il y a une sorte de concordance, d'interférence, de transposition entre l'image de la maison familiale et l'image de l'espace sacrificiel. Et nous avons un autre témoignage, le témoignage du Yacht 18, strophe 3, qui est identique par certains de ses éléments à un moment de, au moment final du Yashtahashi, le Yasht de 17, 60 à 61, où Ahura Mazda rend le sacrifice, fait part de son intention de rendre le sacrifice à Hashi pour qu'elle ne disparaisse pas de l'espace des hommes. Et le texte dit, je vous donne ici le texte du Yasht 18.3, « elle circule, Hashi. Antare arodem manahe, à l'intérieur de la maison. » C'est cette idée qu'Hashi vient, évidemment, l'idée primaire, l'idée immédiate, et elle vient dans la maison, elle y reste, comme je vous le disais, elle y circule. Et cette maison porte deux qualifications. Elle est d'une part Srira, bon, c'est pas grand-chose, ça veut dire que cette maison est belle, mais quelque chose d'un peu plus surprenant, où nous voyons réapparaître le Kshatra. Kshatro, en premier terme de composé, elle est Kshatro-Kurta. Adjectif passé passif, ça veut simplement dire faite, elle est faite, maison qui a été faite, et puis il y a un rapport avec le premier terme Kshatra. Oui, ça a l'air très simple, n'est-ce pas? Mais n'oubliez jamais une des ambiguïtés que nous avons avec, lorsque nous lisons un texte indo-iranien, c'est que faire des composés, et Dieu sait s'ils s'inscrivent à se mettre à en produire de plus en plus dans son histoire, c'est faire l'économie des relations syntaxiques. Les cas ne sont plus là pour nous guider. Ça signifie que nous devons toujours extrapoler le rapport entre le second terme et le premier. C'est une des ambiguïtés fondamentales. Alors, on pourrait traduire simplement, quand on a un second terme, adjectif passé passif, il y a toujours, la plupart du temps, le premier terme a une valeur d'agent. Donc, c'est qui est fait avec Kshatra. Ça donne un bon sens. Ça donne un bon sens, c'est-à-dire, elle est faite avec capacité. Faite avec capacité. Je pourrais traduire comme cela. Je crois d'ailleurs l'avoir, il y a un an, conseillé à un étudiant de traduire comme ça, puisqu'il faisait sa thèse, dans sa thèse, ça y figurait. Bon, en réfléchissant un peu, ça peut être plus compliqué. Ça peut être plus compliqué parce que le verbe « car » se construit relativement fréquemment en double accusatif, « faire ». C'est-à-dire que le sens est « faire en sorte que telle chose », premier accusatif, « devienne telle autre chose » ou « prenne telle qualité ». Second accusatif. Bien, cette maison, peut-être, c'est en faire la capacité, le kshatra, c'est-à-dire en faire le moyen rituel d'avoir un certain pouvoir sur certains événements. C'est l'autre possibilité. Alors, je voudrais, pour que l'image soit ici complète, revenir à Fracharaïté, elle circule. Lorsque cette association à Hashi est évoquée par l'arrivée de la déesse, sa façon d'être dans cette association, cela traduit assez fréquemment une certaine agitation. D'une certaine façon, on pourrait dire qu'Hashi est une agitée. C'est d'ailleurs la seule petite marque distinctive de son catalogue des sacrifiants. On ne nous dit pas de cela, de la déesse aux chevaux immobiles, peut-être parce que justement l'immobilité est son apanage, peut-être. Mais d'Hashi, on nous le dit, lorsque le sacrifiant lui fait sa demande, eh bien, elle court en rond. Elle court en rond. On ne nous dit pas où, cette fois-ci. Mais c'est le verbe que nous avons ici, à l'intérieur de la maison. Donc c'est une déesse qui occupe, avec une certaine hyperactivité, l'espace rituel. N'est-ce pas, l'espace rituel. Alors, dans le cas où il y a une transposition espace rituel comparé à une maison, demeure familiale où la déesse suscite toutes sortes de bienfaits, et aussi une certaine hyperactivité, n'est-ce pas? On pense malgré tout à cette déesse maîtresse de maison et qui peut-être s'affaire en permanence dans la maison ou sur l'air rituel. Elle s'affaire comme la maîtresse de maison faisant le ménage. Donc, vous voyez que l'image est peut-être plus complexe que nous pouvons que nous pouvons le penser. Alors, il faudrait en venir maintenant à la petite histoire de Zarathoustra et de la déesse. Je dirai un mot tantôt de cette histoire, mais un de ces détails doit nous frapper. C'est une déesse qui circule en char dans l'espace. Elle conduit un char. Et selon le témoignage des textes, cette déesse Aurige, c'est une Aurige, et conduit le char de Mithra. Oui, Mithra est un guerrier, il ne faut pas se représenter, un guerrier ne peut pas à la fois conduire un char et se battre sur le char. Hein. Il lui faut un conducteur, n'est-ce pas ? C'est toujours, hein, mais parfois on l'oublie. Mais nécessairement, le combattant en char a un aurige, et l'aurige de Mithra, c'est la déesse Achi. Ça peut paraître assez surprenant, parce qu'on ne voit pas le point de contact entre la déesse du bonheur domestique et la déesse aurige. Elle n'est pas seulement l'aurige de Mithra. Elle est l'aurige aussi de Zarathoustra, comme nous allons le voir. Elle va emmener Zarathoustra dans son char. Et selon une autre strophe, elle est aussi l'aurige du kratu, c'est-à-dire de l'efficacité mentale des saushyant, c'est-à-dire des officiants pleinement investis pour leurs tâches sacrificielles. Et c'est elle qui conduit ce kratu, cette force mentale des saushyant, vers l'est, c'est-à-dire vers le paradis. Donc déesse aurige et déesse du bonheur domestique. Comment ? Je vous demanderai un peu de patience, mais nous allons essayer de voir où est le point de contact. Mais désormais, nous allons cette fois-ci nous y prendre pour Achi, comme nous l'avons fait pour Srausha. Et nous allons nous soucier de son nom d'abord et de son histoire. Bien, alors, première chose, la forme même de son nom a été mise en doute. Vous savez que lorsque nous avons cette consonne intervocalique, c'est une réaction phonétique secondaire acquise dans la transmission orale, et cela vaut pour RT. Normalement, le mot existe, mais je préfère, le mot original sera en sanskrit urti, urti. On a mis cela en doute. Karl Hoffmann a pensé à une forme à degré plein, arti, et Pirard pense à la composition avec le préverbe allon. Bon, ce sont ça n'a pas d'importance, une importance énorme pour le sens. Personnellement, je reste plutôt favorable à la première solution. Je ne vois pas pourquoi il est nécessaire de modifier l'accentuation et le degré vocalique du mot. Et je ne vois pas non plus pourquoi, sur le témoignage d'un unique fragment, l'on ferait le choix de la forme préverbée. Alors, problème que nous avons rencontré pour les Fravashi, mais d'une nature un peu différente. Par quelle racine verbale doit-on expliquer expliquer ce mot ? Bien, par une racine R voyelle, R, ar, au degré plein. Il y en a, il y en a beaucoup. Mais lorsque l'on a élagué dans le nombre de ces racines, on se trouve avec quatre possibilités. Vous savez que pour les comparatistes, aucune racine indo-européenne ne commence par une voyelle. Il faut donc postuler une laryngale initiale. Bien, il y a autant de racines ar qu'il y a de laryngales. Nous avons une racine 1, r, qui signifie se mettre en mouvement. Se mettre en mouvement, c'est le grec erkomai, pour ceux d'entre vous qui connaissez le grec. Et en principe, en sanskrit, urchati. Urchati, je donne la troisième personne de l'indicatif singulier. Il y a une racine à laryngale 2 initiale, celle qui dicte le vocalisme A en grec. C'est la racine de urta et de asha, signifie ajuster. Mais elle n'a produit en indo-iranien aucune forme verbale conjuguée. Donc c'est une racine qui nous est connue par un mot, hein, par un substantif. L'harmonie du monde, asha, ajuster. Il y a une autre racine avec laryngale 2 initiale, c'est une racine qui signifie procurer. Procurer, grec arnumai, en principe, sanskrit urnoti. Urchati n'existe pas en iranien. Urnoti, si, nous avons urnau, urnauiti en avestique. Enfin, laryngale 3, se lever. Orior en latin, ornumi en grec. En principe, iarti, présent en redoublement en sanskrit, yara en avestique. Alors, ici, le problème est différent des fravashi. Le problème, c'est la confusion. Toutes ces racines, le sens de ces racines est extrêmement proche. Hein. Mettre en mouvement un bienfait vers quelqu'un, puisqu'on est dans le domaine des bienfaits avec la DSHI, ou procurer un bienfait à quelqu'un, ou faire se lever un bienfait, la limite sémantique est extrêmement confuse. Ce qui n'arrange pas les choses, c'est que ces thèmes de présent se sont répandus dans la flexion des trois verbes. Alors, se mettre en mouvement, se lever, imaginez qu'avec se mettre en mouvement, j'utilise le préverbe « oud », se mettre en mouvement vers le haut. Ça signifie se lever. Il y a une confusion des formes verbales, formellement, et une confusion des sens qui est totale. Donc, dans ce cas-ci, je veux dire qu'il n'y a pas de délucidation étymologique nécessaire pour la déesse Hachi. Nous pouvons, indépendamment de toute étymologie, considérer, comme l'a fait Pirard d'ailleurs très bien, dans son livre sur Hachi, l'Aphrodite iranienne, qui est paru il y a quelques années à l'Harmattan, je crois qu'il a raison. Alors, on doit envisager trois possibilités. Trois possibilités qui sont représentées hein, dans nos textes pour la déesse Hachi. Nom d'action anti. Alors, c'est l'action d'arriver, l'action d'arriver. Nous avons retenu dans les textes vieillavestiques pour traduction départ, le départ. Troisième possibilité, c'est une question de point de vue, question de déformation secondaire du sens, c'est le fait que quelque chose puisse nous arriver. Nous avions traduit octroi. Octroi. Troisième solution, le fait que nous puissions faire arriver quelque chose. C'est-à-dire l'envoi, l'envoi. Ces trois possibilités sont à disposition. Selon les contextes, nous pouvons les retenir. Je vous dirai toutefois que pour ce qui est de la déesse du Yasht, la déesse des textes de l'Avesta récent, je crois que la plus belle traduction, mais que l'on ne peut pas toujours utiliser parce que le mot, la traduction la plus exacte, parce que le mot a parfois de curieuses inflexions en français, c'est la chance. C'est la chance. C'est ce qui fait que bon, vous avez la chance, que d'autres n'ont pas, de connaître le bonheur domestique. C'est une déesse de la chance. Il y a une idéologie de la chance derrière la déesse Hachi. Alors, problème que nous connaissons pour les Fravashi, que nous connaissons pour Srausha, mais qui est aussi particulier avec Hachi, nous n'avons pas de bonne possibilité de comparaison avec le védique. C'est un fait qui a souvent retenu les analystes lorsqu'il fallait évaluer la déesse Mazdéenne Hachi, n'est-ce pas ? C'est que les équivalences avec le védique sont extrêmement faibles. Possibilités sont très faibles. Nous avons vu ce qu'il en était de Fravashi et nous avons vu ce qu'il en était de Srausha. Il y a tout de même, nous avons vu chaque fois dans les deux cas que des possibilités phraséologiques étaient ouvertes, pour le moins, même s'il n'y avait pas de divinité qui portait un nom comparable dans l'autre domaine. Alors, qu'en est-il pour Hachi ? Bien, nous allons le voir, mais nous avons trois possibilités, ce qui est extrêmement faible de comparaison. Première possibilité, un mot testé dans la Tarvaveda qui est « urti » et qui signifie « l'attaque ». Vous voyez, il y a des choses qui sortent du domaine de l'abstrait pour prendre un sens plutôt concret. Il existe un autre mot, heurti, accentué d'une autre manière, c'est l'impact des armes de jet, lance ou flèche. L'impact. Et alors, j'avais proposé dans le journal asiatique, c'était en fait communication au colloque iranologique de Paris la même année, en 1999, sur la base de l'histoire de la rencontre entre Zarathoustra et Hachi, une comparaison, mais il faut faire abstraction bien sûr du préverbe, avec un terme indien est heurti, mais composé avec le préverbe nir, nirurti, je vais y venir. Alors, l'histoire de la rencontre de Zarathoustra et de la déesse Hachi, oh, je vais vous la lire, je vais vous faire une traduction extrêmement simplifiée. Hein. Il y a d'ailleurs beaucoup de difficultés dans ce texte. Mais on comprend de quoi il s'agit en gros. Alors, Zarathoustra fait un éloge d'Hachi, la déesse s'approche en char et lui demande « Qui es-tu qui m'invoques ? Qui es-tu, toi, qui m'invoques ? Car ta voix est de loin la plus belle que j'ai jamais entendue pour l'un de mes invocateurs. » Alors, Zarathoustra dit qu'il est, il se présente. Alors, la déesse réagit de la façon suivante. La déesse Hachi parla ainsi. « Viens plus près de moi, Zarathoustra. Appuie-toi contre mon chariot, contre mon char. » Il s'approcha plus près d'elle et s'appuya contre son char. Alors, elle le caressa tout autour du corps, avec la main gauche et la main droite, avec la main droite et la gauche, en lui disant ces mots, « Tu es beau, Zarathoustra, tu es bien fait. Tu as de belles cuisses et de longs bras. Le kwarna a été placé dans ton corps et le bonheur te sera donné à ton âme pour toujours. » Alors, voilà l'histoire. Chervœ avait, quelques années plus tôt, réattiré l'attention sur ce petit épisode dont on ne parle pas beaucoup. Chervœ avait la tentation, sans s'apesantir beaucoup, d'y voir un épisode érotique. Je ne pense pas. J'avais donné cette interprétation dans cet article. Cette interprétation était qu'au contraire, la caresse d'Hachi est une sorte de reconnaissance de la matérialité du corps de Zarathoustra. Et en réalité, nous ne connaissons rien de la mort de Zarathoustra, hein, ni dans l'ordre de l'histoire, bien sûr, ni dans l'ordre du mythe. Son histoire n'est racontée nulle part, sauf tardivement. L'histoire de sa mort n'apparaît nulle part, sauf qu'il aurait été assassiné, mais c'est une source extrêmement secondaire, extrêmement récente. Donc, ni l'histoire ni le mythe ne parlent de sa mort. Alors, je m'étais demandé, mon Dieu, n'est-ce pas ici peut-être l'introduction, hein, la rencontre avec Réchi, l'introduction à l'assomption de Zarathoustra. La déesse va emmener Zarathoustra vivant, matériel, dans l'au-delà, hein, comme elle le fait avec les kratous des Saoxiant, hein, qu'elle l'emmène vers l'Est. Alors, ceci dégage la comparaison, une comparaison possible avec Nirurti. Car qu'est-ce que Nirurti ? C'est un terme védique. Eh bien, pour le dire en gros, pour réfléchir à ce que cela veut dire, c'est pire que la mort. C'est la pire des morts. C'est la pire des morts, n'est-ce pas ? Renou traduisait par la néantise, le néant. Et effectivement, c'est à cela que ça ressemble. C'est-à-dire, c'est une mort sans survivance, c'est une mort anéantissante, une mort sans survivance dans l'au-delà. Dans le fameux hymne de Puru Ravas et Urvashi, la nymphe Urvashi, qui a décidé de quitter l'humain Puru Ravas, c'est une dispute de ménage, en quelque sorte, cet hymne, hein, entre la nymphe divine et le héros humain. Et l'ultime argument de Puru Ravas, c'est son suicide. Il va, dit-il, se suicider, puisqu'il en est ainsi. Mais comment va-t-il se suicider ? Eh bien, il va se jeter du haut de quelque chose d'élevé, de telle sorte que ses os soient brisés et qu'il ne connaisse pas la mort, mais la pire, la nirurti. Car la désagrégation des os implique la non-survivance dans l'au-delà. Donc, mais alors, en appliquant le matériel linguistique que nous avons sous la main, les verbes « ar » dont nous disposons, et ce « nir » qui signifie la dévier, un mouvement, un acte qui dévie, je m'étais en quelque sorte demandé si la nirerti ne devait pas être compris comme la sortie de route, dirait-on aujourd'hui pour un véhicule. Enfin, c'est-à-dire que l'on échoue, on dévie dans le voyage vers l'au-delà. Le voyage vers l'au-delà n'aboutit pas. Et cela, c'est la nirerti. Alors, la déesse Ashi, qui emmène, elle, bel et bien, Zarathoustra au paradis, et de surcroît dans un état particulier, l'état matériel, est peut-être une sorte de personnification aussi du départ, et du départ vers l'au-delà. Mais voilà, ce sont les considérations que je voulais faire pour l'histoire indo-iranienne du terme, mais nous allons y revenir plus tard. Alors, la déesse, en vieil avestique, pour suivre la chronologie normale, le mot Ashi est très fréquent, beaucoup plus fréquent que Sraoucha, 20 fois. 20 fois dans l'Avesta ancien. La déesse est sûrement, sans contestation possible, personnalisée, car elle fait partie de ces déesses féminines qui composent la suite de la principale d'entre elles et qui est le futur Ameshaspenta Armaïti. Donc, déesse personnalisée qui se trouve donc, qui est personnalisée dans la suite d'Armaïti, mais qui n'a pas non plus, comme Sraoucha, été sélectionnée dans le panthéon des Ameshaspenta. Elle a reçu son yasht, et pas plus que Sraoucha, elle ne pouvait l'être. Dans son cas, évidemment, le sexe n'est pas un obstacle, puisqu'elle aurait pu devenir un Ameshaspenta féminin. Mais ce qui l'interdit, je pense conceptuellement, si nous rappelons que la sélection des Ameshaspenta doit beaucoup à l'exégèse de Yasna Haptankaiti, c'est que les Ameshaspenta, créatures immatérielles, les premières créées des créatures, correspondent grosso modo au groupe divin que l'on trouve dans le premier des trois volets de Yasna Haptankaiti, le Yasna 37. Or, Ashi est mentionné dans le Yasna 38. Et le Yasna 38, c'est le Yasna des éléments naturels. Des déesses qui, d'une manière ou d'une autre, même si leur nom est abstrait, sont associées à la terre, aux eaux, donc au monde matériel. Il était donc, Sraoucha aussi, créature matérielle, soit les exclut nécessairement du rang des Ameshaspenta. Alors, nous allons parler du texte qui est consacré dans le Yasna à Ashi, un texte bref, le Yasna 52. Le Yasna 52. Bon, comment les choses se présentent-elles? Ici, si l'on tient compte des intercalations du Visprat, les choses sont assez compliquées. L'avant-dernière gatha, le Yasna 51, n'oublions jamais que entre 51 et 53, c'est le moment du Vertrakna, du Brit l'obstacle. Yasna 51 est suivi par le Visperet 20. Le Visperet 20. C'est lui, dans sa deuxième strophe, qui nous signale le Vertrakna. Ce témoignage, c'est lui qui nous le fournit. C'est cette intercalation. Visperet 20. Ensuite, le second, l'appara Yasna Haptankaiti, après le Visperet 20. Répétition du Yasna Haptankaiti. Après, intercalation du Visperet 21 et 22. 21 et 22. Enfin, le Yasna 52. Puis nous aurons le Yasna 53, qui est à nouveau gathique. Une gatha. Voilà donc la structure de cet entre-deux gatha où se produit le brit l'obstacle. Le Yasna 52 trouve sa place ici. C'est un texte bref, car il y a toujours évidemment les inévitables conclusions pour ces textes, mais strophe utile, 3. Je vous ferai grâce des deux dernières, je vous dis en quoi elles consistent. Le Vyasna 52.2 nous apprend qu'Achit est une déesse qui guérit. Elle donne des remèdes. Les Baishaza. Enfin, le Vyasna 52.3 apparaît très. La troisième strophe apparaît très largement comme une mise au pluriel de la strophe 1. Ça nous rappelle que, comme dans le Vyasna Haptankaiti, ces abstractions féminines sont susceptibles de changer de nombre. On en parle la plupart du temps au singulier, il est vrai, mais on peut les mentionner au pluriel. Il sera question dans le Vyasna 52.3 des achayo, donc les achis au pluriel. Alors, nous avons ici un certain nombre avec achit qualification. Nous allons commencer par là, quoiqu'il y ait bien d'autres choses à commenter dans cette strophe 1, qui paraît très banale, mais qui est très curieuse. Alors, quelles sont les qualifications qui lui sont rapportées ? Bien, elle est rasa intime. C'est un participe présent. Rasant. Rasa au présent, verbe ra. Ra, c'est distribuer généreusement, c'est dispenser la richesse à profusion. Ra. Donc, elle donne la richesse généreusement. Elle est dargo vartmanum. Dargo, c'est l'adjectif large, et vartmanum est un dérivé de Vartman, je donne le mot sanskrit, mot que l'on trouve dans le Rig Veda, Vartman. Oh, c'est la trace de la roue du char. Donc l'ornière, si vous voulez, l'ornière. La déesse aux longues ornières. Ah, voilà le thème de l'aurige qui vient. Sa générosité et maintenant son image d'aurige. Les voilà réunis, n'est-ce pas, nos deux images du Yasht 17. Dans les deux premières qualifications du Yasna 52. La figure de la déesse généreuse, distributrice, et l'aurige, aux longues traces, aux longues ornières. Eh bien, ensuite, trois mots. Misha Chim, dont l'un a répété d'ailleurs, il n'y en a que deux en fait. Misha Chim et Hubo Aiwisa Chim. Et ici, ce sont, modifications 110 mises à part, ce sont des dérivés de la racine Hatch. Donc, l'association, la fameuse association qui fait partie de la personnalité d'Achi. Elle est donc Mishachim, ce qui veut dire qu'elle l'accompagne tout de suite, immédiate. L'association avec elle est immédiate. Ensuite, elle le fait volontiers. Hu Aiwi Shachim, qui s'associe volontiers. L'association d'Achi est... facile, répétition de qui s'associe tout de suite, Mishachim, et alors un adjectif afrasankhaitim, dont je ne vais pas faire l'analyse, qui est assez complexe, mais qui veut dire sans discontinuité. Pirard a traduit le mot, c'est correct, indéfectible. Donc son association est durable et sans interruption, non interrompue. Donc, on retrouve ici les caractères, ramassées d'une certaine manière, les qualités que l'on, dont son Yasht nous a parlé de manière beaucoup plus longue. Mais parfois, vous voyez que c'est un véritable résumé des caractéristiques de la déesse selon son Yasht. Oui, alors, s'il vous plaît, on pourrait peut-être en revenir au Yasna 43.12, strophe gathique sur laquelle on avait commenté 44.16, déjà voilà le 43.12, là, vous trouverez aussi la traduction, si vous voulez, la traduction indicative, n'est-ce pas? Donc, Sraucha, le sujet de la phrase, Hachimno, accompagné par Achi, instrumental du nom de la déesse. Sraucha accompagné par Achi. Et la déesse est qualifiée de Manzaraya. C'est ce qu'on appelle en philologie un apax legomenon. Un apax legomenon. C'est-à-dire un mot qui n'est mentionné qu'une fois. Et quand je dis cela, cela ne vaut pas seulement pour les gathas, cela vaut d'une manière générale pour l'iranien, pour les langues iraniennes de tous les temps et de toutes les époques. N'est-ce pas ? Nous avons ici un fossile linguistique qui est conservé dans ce mot. Je vais venir à son commentaire, mais ça signifie qu'il distribue la richesse. Raï est la richesse, et manza, premier terme, ce qu'on appelle le premier terme verbal régissant, c'est-à-dire que le second terme est son objet. Second terme est son objet, signifie qu'elle se livre à la distribution de la richesse. Alors, vous voyez, les thèmes qui viennent ici, pas l'orige, bien sûr, mais nous y reviendrons aussi, les thèmes qui viennent ici, c'est l'association avec Hachi et la distribution de la richesse. Alors, il est très intéressant de voir que nous avons Manzaraya, trouvons en second terme Raï, c'est l'instrumental accordé à Hachi, je vais mettre le mot sous sa forme, oui, sous la forme indienne, pour ne pas devoir noter les trois « i » qui sont toujours bien gênants. Alors, c'est le premier terme qui fait problème. Le traducteur Pelvi n'avait plus aucune idée de ce qu'était le mot parce qu'il a glosé le premier terme par « masse »,« grand », je vais simplement dire « grand ». En effet, ça ressemble un peu, oui. Et alors, il a été obligé pour Raïa de renoncer à un mot qu'il connaissait bien, car il connaît très bien Raï, il le traduit correctement, mais il a donné au mot le sens de ratou. Il a dit « Srausha qui est un grand ratou hein, », donc pour un traducteur pelvi qui est un grand chef. Mais les choses ne se sont pas… Manza est en réalité… Premier terme… représentant un verbe que nous connaissons bien en védique et qui est mamhate, toujours troisième personne de l'indicatif présent, et qui signifie distribuer, hein, distribuer à profusion, comme ra, mamhate. Et nous avons une forme presque identique à celle que nous avons ici, sinon qu'il y a eu un choix différent du thème verbal. Et soma est dit dans un hymne védique. Mam hayat raï. Mam hayat raï. Celui qui distribue la richesse. Bon, voilà. C'est le mot que nous avons ici. C'est le mot que nous avons ici. Alors, ce que je pense réellement, n'est-ce pas ? Nous pouvons reconstituer le fil d'une étrange histoire et d'une histoire d'exégèse à nouveau. Race intime, c'est la traduction. Avestique récente, commentaire, un zen en avestique récent, de Manzaraya. Car il y a entre la richesse, la générosité exprimée par la racine ra, d'évidents points de contact, d'évidents points de synonymie, les deux racines étant interchangeables. Par exemple, Indra est dit. Dans un hymne védique également, Mam Hishta, ici c'est le superlatif, Mam Hishta, celui qui distribue le plus sa générosité, Rati, Ra, la racine Ra, donc qui explique la construction de Rasant. Et une fréquente, extrêmement fréquente expression védique. Lorsque l'on demande la richesse aux dieux, c'est une expression d'une belle sonorité allitérante, hein, c'est le fameux Raïm, ri-ri-hi, Raïm, ri-hi-hi. C'est la racine ra, c'est présent redoublement, impératif, hein, confère la richesse, distribue la richesse, Raïm, ri-ri-hi. Donc vous voyez le caractère interchangeable de Mamhate et de la racine Ra. Alors, on peut continuer cette histoire cette histoire de traduction progressive de ce motif de la distribution de la richesse appliquée à la déesse, Ashi. Si le Mansaraya du vieil avestique est devenu un avestique récent, Rasainti, c'est distribué, le traducteur Pelvi, pour traduire Rasainti, va se laisser influencer par le contexte, je vais dire, du monde du char et des origes, celui de Darugo Vartman, et il traduira Rasaintim, Ras Estichni, le fait de se trouver sur un char. Donc, pour le commentateur Pelvi, on revient au motif du char à l'intérieur même de celui de la générosité, simplement par une hypothèse étymologique, finalement. Il a évidemment vu quelque chose d'approchant dans son nom du char, Ras, dans la forme de Ras intime, et il l'a traduit par Estichni, ce qu'il fera dans la traduction sanscrite de Nerio V, Chakrastita, qui se trouve sur la roue. Donc on reste dans ce même... Alors maintenant, après avoir vu l'importance de la strophe Yasna 43-12 pour comprendre le Yasna 52-1, nous pourrions peut-être revenir en arrière à la phraséologie du Rig Veda et constater combien dans cette phraséologie l'on voit se combiner l'idée d'envoyer avec la racine ar, soit un char, soit de mettre en route un char, comme l'origine, soit de mettre en route la richesse, et de voir combien, n'est-ce pas, le motif du voyage en char et le motif de la distribution de la richesse sont contigus et s'entremêlent. Je vais donner deux exemples tirés du Rig Veda. Le premier est un exemple qui se trouve dans un hymne aux Ashvines, l'hymne 768-5, où l'on constate en réalité Pra Vam Rato. Votre char, Iyarti, se met en mouvement, racine ar. Iyarti, et alors le cadeau à l'instrumental. Non, c'est plutôt un bahouvri, excusez-moi, un bahouvri accordé au char. Satoti, donc chata, sans outil, l'aide. Là, votre char se met en route pour nous apporter sans faveur. Racine ar. Alors, un autre exemple, 8, 7, 13, c'est un hymne au Marut. Anno Iyarta. J'ai oublié le mot, excusez-moi. Anoraim. Donc, mettez en mouvement pour nous la richesse. Et Yad Yamam. Achidvam. Lorsque vous avez décidé de faire le voyage. La racine ar, la richesse et l'idée de voyage. À nouveau combiné. Donc, on pourrait, je pense, la conclusion de tout ceci, je pense, c'est que le cas de Ashi est exactement comparable à celui de Saoucha et des Fravachis. Le nom de la déesse, même s'il n'a pas d'équivalent dans l'onomastique divine védique, est profondément ancré dans une représentation indo-iranienne. C'est la combinaison de l'idée de distribuer des cadeaux, d'amener ces cadeaux en char, hein, et de mettre en mouvement ainsi tout un mécanisme de générosité divine vis-à-vis des hommes. Du côté iranien, comme dans le cas des Fravachis et de Saoucha, n'est-ce pas, cette image a été poussée jusqu'à l'allégorie divine. Elle n'a pas été du côté indien, cette fois. Mais tous les ingrédients sont là, tous les ingrédients sont réunis. L'emploi de la racine art, le voyage en char, etc. Alors, comment peut-on voir la déesse? C'est une déesse de l'aller-retour. Hein. Mais l'aller-retour qui se combine de manière passablement contradictoire avec la permanence, parce que d'une manière ou d'une autre, il faut que ces deux choses contradictoires soient réunies dans le chef de la déesse. Elle vient en char avec des richesses vers ceux qui lui sacrifient, vers leur ère sacrificielle comparée à une maison. Hein. Et puis, transposition, bien sûr, de la métaphore sacrificielle à la maison réelle de la famille. Elle vient avec ses cadeaux, elle entre dans cette maison, elle pose le pied, disent les textes, elle y met le pied, et elle y demeure longtemps. Hein. Elle y demeure pour une longue association. Mais d'autre part aussi, elle repart. En même temps, elle repart. Et elle repart avec la pensée des sacrifiants, et aussi peut-être comme déesse psychopompe avec les âmes des morts. Hein. Et ainsi, tout se combine dans l'image, hein, l'aurige divine, hein, le voyage vers l'au-delà et la distribution des richesses. Je voudrais vous signaler que nous devrons finir. Je suis désolé de ne pas avoir le temps de terminer cet exposé, le temps s'y oppose, mais il faudrait y revenir parce que, mine de rien, il faudra voir comment cette strophe est construite. Elle est aussi significative pour un problème que nous avons parlé de l'image de la déesse, mais nous n'avons pas abordé un problème. Pourquoi Hachi ici? Pourquoi est-il nécessaire d'introduire un texte qui est une eulogie d'Hachi, d'une certaine façon, de la déesse Hachi, à ce moment rituel, hein, un moment rituel qui se combine avec le Yasna 51, le Yasna 53, et la répétition du Yasna Haptankaiti. Cela demande un peu trop de temps pour que je puisse m'en occuper à présent, en tout cas de manière exhaustive. Alors je vous demanderai de bien vouloir patienter jusqu'au 8 janvier, je pense, hein, et permettrai aussi d'utiliser les dernières secondes qui me restent à vous souhaiter de bonnes fêtes et à vous présenter mes meilleurs voeux. Merci beaucoup.
Retrouvez tous les podcasts du Collège de France sur www.college-de-france.fr.